Alors, pendant que vous vous installez, je tiens à donner une précision à ceux qui auraient lu Libération ce matin. Aucune cigogne n'a été sacrifiée pour ce rapport. Pas un chou, pas une rose non plus. Voilà. Donc, cet oiseau écrabouillé n'est pas du tout de notre fête. Nous sommes pour les cigognes, les choux, les roses et les enfants en général. Est-ce que tout le monde arrive à trouver une place ? Alors, pendant que les derniers s'installent, juste quelques mots sur l'organisation de ces trois heures qui vont nous paraître bien courtes. Après avoir entendu le mot d'accueil du président de l'École des hautes études et de la vice-présidente de l'Université Paris 1, les deux institutions d'appartenance de Anne-Marie Le Royer, rapporteure du rapport, et de moi-même, nos institutions qui nous ont beaucoup soutenus tout le temps de ce travail, nous allons avoir une première partie où une partie des membres du groupe de travail, on était 25, on est quasiment tous là, sauf ceux qui sont au Brésil, comme Hugues Fulchiron, ou en mission. On est tous là, certains seulement peuvent être là, les autres sont tout prêts, vous pourrez les interroger aussi. Donc on vous présentera les principales analyses et préconisations de ce rapport. Ensuite, nous allons donner spécifiquement la parole aux représentants d'associations, d'organismes et aux experts qui nous ont fait l'honneur de participer aux auditions que nous avons demandées, qui nous ont donné des textes. Ces textes constituent un gros volume d'annexes de notre rapport, et nous tenions à ce que, après qu'ils nous aient donné de leur temps, ils aient la possibilité de réagir à notre travail, éventuellement de le critiquer. Et puis ensuite, bien sûr, un débat général sera ouvert avec vous tous. Et donc, je donne tout de suite la parole à Pierre-Cyril Auqueur. On vous remercie beaucoup.
Merci Irène, chers collègues, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir au nom de l'École des études en sciences sociales dans cet amphithéâtre, d'accueillir ici la présentation de ce rapport qui a été très attendu, puisque ça fait quelque temps qu'il est achevé et qu'on attend sa présentation. Rapport qui a été commandé par Dominique Bertinotti, alors ministre délégué à la Famille, et dont le sort est désormais entre les mains de Laurence Rossignol, qui a été nommée tout à l'heure, et de Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales. Il se trouve que le hasard fait que, avant-hier, j'ai rencontré Marisol Touraine à l'enterrement de Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, grand historien médiéviste qui a été président de cette école, et qu'elle me disait toute l'importance qu'avait eue pour elle, pour sa réflexion, et en particulier pour sa réflexion sur ces questions délicates de la famille et de la parentalité, l'anthropologie historique que Jacques Le Goff avait contribué à fonder dans cette maison, discipline qui lui avait permis de modifier profondément sa manière de comprendre la diversité des rapports sociaux et des rapports familiaux et des rapports de genre dans le temps. Ces questions de filiation, d'origine, de parentalité, ces questions de la famille, de la sexualité, des relations de genre, sont des questions naturellement majeures pour tous les hommes de tous les temps, mais cela fait finalement peu de temps que les chercheurs, les historiens d'abord, les chercheurs des sciences sociales de manière plus large aussi, se sont intéressés scientifiquement à ces questions, et que les historiens ont montré la multiplicité des solutions institutionnelles, des modes de vie aussi sur ces questions, que les anthropologues ont montré la diversité des pratiques dans les sociétés du monde entier. C'est une aventure qui a souvent commencé à l'École des hautes études en sciences sociales ou à l'École pratique des hautes études auparavant. Je mentionnerai simplement comme exemple Philippe Ariès, Jean-Louis Flandrin, ou dans une maison proche, Michel Perrault. Ce sont des sujets qui donc ont mûri scientifiquement et qui ont accompagné les transformations de la société. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, comme le démontrent les travaux de tous ces auteurs dont je ne pourrais pas citer tous les noms, ça n'est pas tant la profondeur ou la radicalité des changements qui affectent ces domaines, mais c'est peut-être plutôt la vitesse à laquelle ces changements ont lieu depuis quelques décennies. C'est en tout cas une des choses que j'ai retenues de ces lectures et aussi de ce rapport. La multiplication des situations nouvelles, les démariages, puis les remariages, les familles complexes, recomposées, au moins au regard de ce qui était des normes dans une certaine partie du monde pendant une petite partie du temps historique. Les nouvelles technologies, dont les transformations sont beaucoup plus rapides qu'autrefois, jouent évidemment un rôle dans la vitesse de ces transformations. Et aujourd'hui, les personnes revendiquent, plus qu'elles n'ont jamais pu faire, une meilleure connaissance de leur situation et une meilleure maîtrise aussi des évolutions auxquelles elles sont confrontées. Et face à toutes ces transformations, force est de constater qu'il y a parfois dans la société un certain désarroi qui peut aller jusqu'à l'inquiétude, voire à un raidissement d'une partie de la société et qu'on peut comprendre. Et je crois que dans cette situation, le rôle du chercheur est important parce qu'il permet, en mettant en perspective ces changements, en comparant avec d'autres temps ou d'autres lieux, il permet de mieux anticiper les effets des transformations en cours, de les relativiser aussi, de montrer que toutes les sociétés en ont connu et y ont survécu. C'est en ce sens, je crois, que la recherche est au service de la société. Elle n'est pas au service de la société parce qu'on lui commanderait des études avec des résultats qui seraient connus à l'avance, mais c'est l'accumulation de recherches qui, peu à peu, amène au mûrissement de la connaissance sur un sujet jusqu'au moment où le politique saisit les chercheurs et saisit le droit pour permettre éventuellement des évolutions législatives qui soient en consonance avec la société. C'est en ce sens, en tout cas, je crois, qu'a travaillé ce groupe de travail, ce groupe fourni, ce groupe remarquablement complet en termes de compétences, puisqu'il comprend sociologues, anthropologues, démographes, psychologues, psychiatres, médecins, épidémiologistes, philosophes, historiens, politistes et juristes. Ce travail interdisciplinaire, et je me félicite que ce travail soit confié à une directrice d'études de l'EHESS, maison dans laquelle l'interdisciplinarité a toujours joué un rôle majeur dans le plus grand respect des compétences et des spécificités disciplinaires de chacun, en articulation avec une professeure de droit de l'Université de Paris 1 qui est à même, justement, de faire la synthèse et d'articuler l'ensemble de ses savoirs avec la rédaction du droit ou avec le droit tel qu'il existe aujourd'hui. Donc je veux les remercier, les féliciter pour ce travail remarquable, pour ce travail aussi d'une coopération intense et fructueuse, non seulement entre tous les membres de ce groupe de travail, mais aussi entre l'École des études en sciences sociales et l'Université de Paris 1. Un travail que nous cherchons à réaliser de manière institutionnelle au sein de la communauté ESAM, mais un travail qui n'existe et ne peut exister que parce que les collègues, comme c'est le cas ici, souhaitent travailler ensemble et le font concrètement sur des projets communs. Et donc je suis à cet égard heureux de passer aussi la parole à Yvonne Flour, professeur de droit privé à l'Université de Paris 1 et donc beaucoup plus compétente que moi sur ces sujets, et également vice-présidente de cette université et donc notre partenaire quotidien qui représente le président Boutry, empêché. Madame la vice-présidente, merci.
Merci, monsieur le président. Voilà, eh bien, en premier lieu, et comme vient de le dire Pierre-Cyril Auqueur, je voudrais vous présenter les excuses de notre président, Philippe Boutry, président de l'Université Paris 1, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous parce qu'il est retenu par des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre, mais je pense au moins aussi difficiles que celle dont nous allons traiter aujourd'hui, mais qui regrette évidemment beaucoup de ne pas participer à cette réunion. Je voudrais aussi m'associer aux paroles de bienvenue prononcées par Pierre-Cyril Auqueur, même si on n'est pas tout à fait, je ne suis pas chez moi ici, je suis chez vous, mais enfin, admettons que nous sommes ensemble chez nous. Et je m'associe à l'organisation de cette réunion qui couronne un travail particulièrement fécond, certainement particulièrement difficile, un peu chaotique sur les dernières semaines et un peu chahuté en tout cas sur les dernières semaines ou les derniers mois, et que donc nous sommes tous particulièrement heureux de voir aboutir et de voir présenter de manière publique, parce qu'on sait bien que dans la République, il y a des rapports qui restent dans des tiroirs et dont on ne fait pas grand-chose, mais nous espérons tous que de celui-là, on tirera beaucoup d'enseignements, et je n'en doute pas. Alors, je crains de ne redire un peu ce qui a été dit par mon prédécesseur, tellement, d'abord parce que vous avez été très complet, mais je voudrais insister sur quelques points. Le premier, enfin, je vais m'exprimer en juriste, je voudrais exprimer le plaisir que j'ai d'être ici. On dit en termes juridiques « rationner loci et rationner personae » en raison des personnes et en raison du lieu. En raison du lieu, parce que, comme l'a dit Pierre-Cyril, au fond, nous sommes ensemble dans un presse qui s'appelle Les Âmes. Le travail qui a été fait sous la direction d'Irène Théry n'a absolument rien à voir avec Les Âmes. Mais en même temps, il est un test, il est une expérience, presque une expérimentation in vivo. C'est-à-dire qu'il atteste de la richesse des complémentarités qui existent, alors qui existent bien au-delà, bien sûr, des âmes, mais notamment, puisque c'est le lieu entre... J'ai regardé la composition du groupe de travail, de très nombreux chercheurs de l'EHESS, de nombreux chercheurs de Paris 1, enfin notamment les juristes, de nombreux chercheurs du CNRS, et puis bien d'autres également qui ont été associés à ce travail, mais nous ne sommes pas exclusifs. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a là le témoignage, en effet, de la richesse des complémentarités qui existent entre nous et de ce que nous pouvons réaliser ensemble si les chercheurs s'emparent d'un projet et le font vivre. Et je trouve que c'est un très, très beau témoignage. J'ai dit aussi rationner personnel, ça c'est plus personnel pour le coup, puisque je me réjouis non seulement parce que je suis lié par des liens d'amitié très étroits avec Anne-Marie Leroyer, nous travaillons beaucoup et très, très couramment ensemble, mais je me retrouve ici dans un univers extrêmement familier, puisque je me souviens qu'il y a quelques années, pas si anciennes quand même, hein, c'était en 1999, si ma mémoire est bonne, nous avions déjà collaboré dans un rapport commandé par le ministère de la Justice à l'époque sur le droit de la famille, avec Pierre Murat, avec Hugues Fulchiron, avec Marianne Schulz. Et on était plus entre juristes, mais nous avions travaillé en prenant appui sur un rapport précédent qui avait été rédigé par Irène Théry. Vous voyez qu'on reste, si je puis dire, dans la famille ou dans un univers très, très proche. Et c'est un certain étonnement même de se retrouver aujourd'hui, de voir ressurgir des questions que nous avions travaillées ensemble. Ce qui me frappe, c'est deux choses. C'est d'abord, et ça aussi Pierre-Cyril l'a dit, c'est la vitesse avec laquelle ces questions changent. Non seulement les questions changent, mais que le droit change, ça n'étonne pas les juristes. Enfin, ils lisent le journal officiel et le bulletin de la Cour de cassation tous les jours. Et ils savent très bien que ce qu'ils ont enseigné la veille à leurs étudiants sera différent dès le lendemain. Ça, c'est pas surprenant. Mais ce qui me surprend, c'est en effet la vitesse, mais c'est aussi la dimension du changement. Parce que si je mesure le temps finalement pas très long qui s'est écoulé depuis 1999, où nous avions fait ce rapport à Mme Guigou, et aujourd'hui, c'est ce que les termes même dans lesquels ces questions sont pensées sont complètement modifiés. Et elles sont modifiées sous l'effet de changements certainement sociologiques et sociétaux, mais probablement plus profonds, parce que les références même auxquelles on tente de s'accrocher, si j'ose dire, ou de se référer pour penser les questions et les encadrer, ont vraiment complètement changé. Je pense notamment à toutes les questions qui tournent autour de l'assistance médicale à la procréation, où on est parti de façon extrêmement prudente. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une accélération qui est un peu difficile sans doute à contrôler et à cadrer. Mais vraiment, encore une fois, ce qui me frappe le plus, c'est que le cadre même dans lequel on les pense s'est complètement transformé. Et donc, c'est, voilà, c'est de plus en plus compliqué, mais on est là pour ça. Et puis la deuxième chose, je voudrais dire, d'abord je voudrais exprimer ma réelle admiration à l'ensemble des membres de ce groupe de travail, parce que ce qui me paraît très riche, et finalement peut-être un peu nouveau quand même, c'est la manière dont vous avez associé des regards extrêmement diversifiés et des regards croisés sur ces questions. Et Pierre Cyril l'a dit, anthropologique, sociologique, mais aussi des médecins, des psychiatres. Donc c'est une vision extrêmement, je ne dis pas complète, parce que complète, le mot est trop faible, mais véritablement en associant des points de vue qui procèdent de regards, de cultures extrêmement différentes, autour de questions qui sont quand même, je crois, des questions qui, dans leur nature profonde, en tout cas à la fin, lorsqu'il va falloir les exprimer, sont des questions juridiques. Et ce sont des questions, ces questions de droit de la famille en général, mais plus encore de droit de la filiation, sont des questions qui, techniquement, sont des questions très difficiles en droit, mais qui, en même temps, ne peuvent pas être pensées dans un cadre uniquement juridique, qui sont l'expression d'une réflexion de la société tout entière. Et c'est pour ça que je trouve que la pluridisciplinarité, mais encore une fois, l'association et le croisement de regards qui sont des regards différents, diversifiés et procédant de points de vue complètement qui n'ont rien, et de cultures qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui toutes tendent à éclairer et à permettre de penser ces questions complexes, eh bien je crois que c'est un challenge difficile, mais un challenge extrêmement fécond. Et donc, encore une fois, je ne peux qu'exprimer mon admiration et mes félicitations aux membres de ce groupe de travail, et puis dire que je suis persuadée que nous allons tous apprendre énormément et tirer des sources de réflexion extrêmement vastes et profondes autour de ces questions qui, au fond, intéressent tout le monde, parce que nous ne sommes pas tous des spécialistes de la famille, mais chacun d'entre nous a une famille et a une expérience de la famille à travers la sienne. Et donc, nous ne pouvons tous qu'être intéressés par ce que vous avez à nous dire. Et par conséquent, je m'arrête maintenant et je passe la parole à Irène Théry.
Je voudrais que les premiers mots que je prononce ici au nom du groupe de travail soient des mots de gratitude et de respect à l'égard de Dominique Bertinotti. Bien sûr, voilà, il y a eu des petits accrochages sur la fin. Mais nous n'oublions pas que c'est elle qui nous a fait confiance, c'est elle qui nous a donné ce rapport. Sans elle, nous ne serions pas là, sans elle, nous n'aurions pas fait ce groupe de travail. Elle nous a fait confiance, elle nous a permis de travailler totalement librement. Elle nous a accueillis pour nos réunions de travail dans son ministère, où nous avons été très bien traités. Nous avons écrit comme nous l'avons souhaité, et donc c'est très important pour nous de lui rendre tout de suite cet hommage. C'est grâce à elle que ce rapport existe. Et je remercie les membres de son cabinet qui ont tenu à être là ce soir. Donc, je vais présenter rapidement la logique générale du rapport, et ensuite, mes collègues présenteront les préconisations, les propositions phares, disons, sur un certain nombre de questions. Donc, ce rapport est constitué de deux volumes parce que notre mission était formée de deux missions, en quelque sorte. Une mission qui était une réflexion prospective sur la filiation, qui nous semble manquer beaucoup, c'est-à-dire une réflexion globale sur la filiation, qui n'avait pas d'objectif législatif particulier, sinon à l'échéance de propositions de loi peut-être ultérieures. Et donc, dans ce premier volume, nous parlons de la filiation charnelle, de l'adoption, nous parlons de la procréation médicalement assistée. Nous savons qu'un débat est prévu depuis longtemps sur ce sujet, puisque le Conseil consultatif national d'éthique a reçu mission du président de la République de donner un avis sur le sujet. Et puis, il y avait un autre volet, plus précis, plus urgent, on va dire, pour une prochaine loi famille, qui portait sur deux questions précises, l'accès aux origines et la place familiale du beau-parent. Et je suis très heureuse que les députés qui présentent aujourd'hui une proposition de loi famille qui reprend en partie certains des sujets qui avaient été évoqués, nous aient fait l'honneur d'être présents ce soir. Donc, le volume 1, réflexion prospective sur la filiation, comporte lui-même deux parties. Une première partie qui s'intitule « Pour un droit de la filiation commun et pluraliste ». Et dans cette partie, nous posons les bases d'une analyse d'ensemble des transformations de la filiation en essayant de resituer les changements récents dans le fil du temps très long de l'histoire. Ça nous paraît extrêmement important d'être capable de comprendre si les changements que nous vivons sont des ruptures de civilisation, comme on l'a entendu dire quelquefois, ou s'ils ont des racines anciennes, voire très anciennes. Et le rapport essaye de montrer que beaucoup des changements qui se produisent aujourd'hui et beaucoup des préconisations de réformes que nous faisons ont en fait des racines historiques profondes. Donc, nous remontons jusqu'au Code Napoléon de 1804 pour bien faire comprendre et partager, parce que le souhait que l'on peut avoir en tant qu'universitaire quand on fait un travail d'expertise, c'est de partager avec un plus large public ce que nous avons appris au cours de notre spécialisation. Donc, de faire sentir les profondes métamorphoses que la famille a connues en tant qu'elle est une institution. Bien sûr qu'elle a eu des changements des mœurs, des changements des pratiques, mais quand on s'intéresse au droit du mariage, de la filiation, ce qu'on aperçoit, c'est effectivement une véritable métamorphose de la parenté. Je reprends sciemment le terme de Maurice Godelier. L'objet de cette première partie, c'est de dérouler l'analyse de cette métamorphose en rappelant tout d'abord quelques éléments qui devraient être mieux connus sur le droit du premier code civil des Français, celui du code Napoléon de 1804, en rappelant que ce droit de la famille, il avait deux grandes caractéristiques. Il était matrimonial, il n'y avait de vraie famille que la famille légitime. En dehors du mariage, pas de famille. Un couple marié était une famille. Une mère non mariée avec son enfant n'était pas une famille. Donc il était matrimonial et il était hiérarchique. Plus précisément, fondé, organisé sur la hiérarchie des sexes. Le principe de hiérarchie des sexes, puissance maritale, puissance paternelle. Et ensuite, en montrant comment cet ordre matrimonial et hiérarchique s'est trouvé peu à peu défait par la montée de deux grandes valeurs démocratiques, l'égalité des sexes, la personnalisation du lien à l'enfant, au sens que l'enfant a été considéré de plus en plus comme une véritable personne en devenir et non pas comme une sorte d'adulte imparfait. Et donc, cette métamorphose s'est traduite dans les années 70 par un premier grand moment de modernisation du droit de la famille. C'est important de le rappeler pour rappeler que les questions familiales savent quelquefois transcender les clans politiques quand les politiques ne se laissent pas peut-être trop magnétiser par leurs extrêmes. Parce qu'une droite libérale, avec l'appui de la gauche, a été capable, dans les années 70, d'opérer une impressionnante succession de réformes du droit de la famille. Réforme des régimes matrimoniaux en 65, de l'adoption plénière en 66, le passage de la puissance paternelle à l'autorité parentale en 70, l'égalité des filiations légitimes et naturelles en 72, la légalisation de l'avortement par la loi Veil de 75 et enfin le divorce par consentement mutuel également en 75. Cette vague de modernisation a profondément mis en question l'ancien ordre familial, mais ce n'est qu'après ce premier moment qu'on a commencé à percevoir le phénomène nouveau du démariage. Alors j'ai repris ce terme du doyen Jean Carbonnier en lui donnant un sens un peu nouveau pour signifier non pas la crise du mariage, non pas la dévalorisation du mariage. Le mariage va bien, il va d'ailleurs de mieux en mieux depuis qu'il est ouvert aux personnes de même sexe. Le mariage se porte très bien, mais il a changé profondément de place. Il n'est plus, disons, l'horizon indépassable des rapports sexués. Il n'est plus le grand organisateur du rapport entre un monde masculin, de l'art, la science, la politique, la guerre, et un monde féminin, de la maison, du domestique, des enfants, des vieilles personnes. Il n'est plus ce qui relie deux mondes spécialisés par genre, on pourrait dire. Aujourd'hui, nous vivons selon une toute autre logique. Nous voulons vivre selon une logique de mixité, où il n'est pas un domaine de la vie publique ou politique ou sociale, et il n'est pas un domaine de la vie privée qui soit dédié spécifiquement à un sexe ou à l'autre. Le démariage, c'est le fait que se marier, ne pas se marier, rester marié, se démarier, est devenu en fait une question de conscience personnelle. Et nous commençons à peine à prendre la mesure de ce que signifie cette révolution, c'est-à-dire le mariage, c'était l'axe du droit commun de la famille, c'était le socle de la stabilité familiale. Et le mariage était idéalement indissoluble, il est resté indissoluble quasiment tout le XIXe siècle, jusqu'en 1884, où seul a été rétabli le divorce pour faute. Mais ce qui se produit avec le démariage, c'est que progressivement, ce n'est plus le mariage, l'axe d'un droit commun de la famille, c'est la filiation dont nous allons parler. Et donc, nous soulignons ce qui a été accompli dans le sens d'une deuxième grande vague de réformes. D'abord, au temps du démariage, on va dire d'abord, mais ça je ne fais que le citer rapidement, la métamorphose de la conjugalité qui a été mise en œuvre. Hein, et vous savez, je n'ai pas le temps d'insister là, qu'aujourd'hui, mariés, pacsés et concubins de sexes différents et de même sexe peuvent cohabiter dans le droit civil de la famille. Et on peut dire, je crois, tranquillement, que les bases d'un nouveau régime du couple au XXIe siècle sont désormais posées. Il y a toujours des questions en suspens, mais ces questions consistent principalement à tirer toutes les conséquences de ce nouveau régime de la conjugalité. En matière de filiation, nous sommes moins loin. Nous sommes au milieu du gué. Dans un premier temps, c'est vrai, c'est important, la filiation s'est profondément unifiée grâce à l'égalisation des filiations légitimes et naturelles qui a fait sombrer dans l'oubli la grande fracture qui opposait autrefois l'univers familial, séparant d'un côté l'honneur et de l'autre la honte, hein, d'un côté la famille et de l'autre le sexe, d'un côté les honorables épouses et mères de famille et de l'autre côté les filles mères, les catins, les prostituées, les cocottes. Donc, ce principe-là qui opposait donc les enfants légitimes et les bâtards, hein, vraiment deux catégories d'enfants qui avaient créé les enfants parias sociaux quand même, eh bien cette grande opposition est tellement oubliée que quand on dit aux jeunes générations « Est-ce que vous savez que ce n'est que depuis 2005 que nous avons effacé du droit la différence entre, et même la distinction entre filiation légitime et naturelle ?» Ils sont tout étonnés de découvrir que nous avons vécu une très profonde révolution qui était tellement consensuelle qu'elle en a été silencieuse. Et donc désormais, il n'y a plus, on pourrait dire, qu'une seule filiation, il n'y a plus deux filiations, et le principe d'indissolubilité, j'y reviendrai, s'est déplacé du mariage vers la filiation. La filiation est désormais l'axe d'un droit commun de la famille. Alors on va dire, alors tout va bien, pourquoi faire un rapport ? Eh bien, c'est que cette métamorphose est inachevée. Alors que le droit commun du couple, je l'ai dit, est à la fois commun et pluraliste, le droit de la filiation, il est certes unifié, selon des valeurs fortes, peut-être même plus fortes que pour le couple, mais son caractère pluraliste n'est toujours ni reconnu, ni pensé, ni institué. Alors, pour le montrer, nous consacrons un chapitre aux controverses qui ont eu lieu sur la filiation de même sexe, controverses qui ont accompagné la loi sur le mariage pour tous. En effet, rien ne révèle mieux où sont les problèmes et questions en suspens que les malentendus extraordinaires auxquels cette loi a donné lieu. Par exemple, selon les opposants, l'idée que l'on s'apprêtait à mentir aux enfants sur leur origine, ou à leur faire croire qu'un enfant pourrait naître de deux femmes, ou encore que les mots « père » et « mère » allaient disparaître du droit et de l'état civil. Ces accusations infondées ont révélé non seulement le poids des préjugés sur les familles homoparentales, mais également la prégnance dans l'opinion de représentations largement dépassées de l'adoption et de la procréation assistée avec tiers d'honneur. Mais si elles ont pu se répandre aussi facilement, c'est aussi parce qu'elles révélaient à leur manière un certain caractère, on peut dire obsolète, du droit français lui-même. En effet, malgré des changements importants dans les valeurs et les pratiques, l'adoption et surtout l'engendrement avec tiers d'honneur sont encore largement organisés en droit selon un modèle de pseudo-filiation charnelle. Nous y viendrons. Et donc, après cette première partie qui donne le sens de la réforme qui nous paraît nécessaire, accomplir pour la filiation l'équivalent de ce qui a déjà été accompli pour la conjugalité, nous déroulons dans un deuxième temps ce que pourrait être, selon nous, ce droit commun et pluraliste de la filiation. Un mot pour le résumer, hein, une filiation, trois modalités d'établissement. Alors, un mot pour dire tout bien, que dans cette deuxième partie, pas plus que dans la première, vous ne trouverez de chapitre consacré à l'homoparentalité. Nous n'avons pas voulu qu'il y ait une place particulière pour l'homoparentalité, car nous avons voulu que l'homoparentalité soit à sa place partout. Dans tous les chapitres de notre rapport, les familles homoparentales sont traitées comme les familles hétéroparentales, que nous traitions de l'état civil, de l'adoption, de la procréation charnelle, de la procréation par médicalement assisté, de l'accès aux origines ou des droits des beaux-parents. Eh bien, les familles homoparentales sont traitées dans ce rapport comme des familles comme les autres. Donc, dans ce rapport, une seule filiation, au sens où le lien humain qu'est la filiation, ce lien très particulier que l'on noué entre ascendant et descendant, ce lien, il est constitué aujourd'hui pour tous des mêmes droits, des mêmes devoirs, des mêmes interdits, des mêmes attentes. Donc, une seule filiation. Mais en revanche, ce que nous proposons, et ça, c'est l'unité, une seule filiation, c'est qu'il y ait, il soit reconnu qu'il y a trois modalités pour établir cette filiation. Et là, c'est là qu'on peut conjuguer, en quelque sorte, le commun et un certain pluralisme qui nous paraît nécessaire. Ce pluralisme consiste à essayer de s'extirper d'un débat qui a, je crois, beaucoup pesé sur les controverses de ces dernières années sur la filiation, qui est l'opposition qu'on a beaucoup entendue entre le parent biologique et le parent social. Cette opposition où on vous somme un petit peu de choisir, est-ce que vous êtes du côté du parent biologique ou est-ce que vous êtes du côté du parent social ? Cette distinction ne nous paraît pas finalement du tout convaincante, et il nous a paru plus important d'essayer de montrer que finalement elle est très étrange. Parce que dans la vie courante, dans nos vies, dans nos familles, ces valeurs ne s'opposent en rien. Jamais la valeur de l'engendrement charnel n'a été aussi importante, comme en témoigne le choix de plus en plus réfléchi de donner la vie à tel moment, l'investissement affectif qui accompagne la grossesse et la naissance, ainsi que la lutte sans merci de notre société contre la stérilité. Mais jamais la valeur de l'engagement parental n'a été aussi forte, comme en témoigne le développement sans précédent de l'adoption en France, et en particulier les dizaines de milliers de couples bénéficiaires d'un agrément, mais aujourd'hui en attente du fait de la chute du nombre d'enfants adoptables dans le monde. Et enfin, jamais la valeur du projet parental liant indissolublement les deux valeurs de la procréation charnelle et de l'engagement parental n'ont été aussi plébiscitées, comme en témoigne l'expansion rapide de l'assistance médicale à procréation avec un tiers donneur, où un même couple, pour un même projet, pour un même enfant, lie ces deux valeurs, devenir parent parce qu'on a transmis la vie et devenir parent bien qu'on n'ait pas transmis la vie parce qu'on s'est engagé à devenir le parent d'un enfant. Donc, loin d'exclure ou de hiérarchiser, le sens de notre rapport, c'est de faire coexister à égale dignité trois modalités d'établissement de la filiation: l'engendrement par procréation charnelle, l'adoption, l'engendrement avec tiers donneur. Donc, ces différents points seront développés par mes collègues. Je dirais juste un mot sur un étonnement. L'étonnement que nous avons eu sur la procréation charnelle. En fait, elle représente l'immense majorité des cas, mais nous avons constaté que le débat public sur elle est encore largement à construire. Et donc, nous n'avons pas cherché à nous substituer à ce débat manquant. Ce serait contraire à la conception de l'expertise qui est partagée par notre groupe. Nous ne faisons donc pas de proposition sur la filiation charnelle. En revanche, nous appelons de nos voeux une très prochaine réflexion de fond de la société sur ce sujet. Et nous avons déroulé, pour y inciter, tout un ensemble de questions brûlantes. Donc, nous les avons citées, nous ne les avons pas tranchées. Mais depuis le problème, je peux en citer quelques-unes, le problème des paternités imposées, le problème de la division de la maternité physique entre une maternité génétique et une maternité gestationnelle, et le fait que seule la maternité gestationnelle est reconnue en France. Le fait, la question de l'usage des tests ADN, le fait que les personnes transgenres se voient imposer des stérilités forcées, la question des transferts d'embryons post-mortem, la place du père biologique dans l'accouchement sous X, ou encore le sens actuel de la présomption de paternité en mariage ou les usages abusifs de la reconnaissance, et j'en passe. Voyez donc qu'après nous, il y a du travail. On n'a pas tout fait. Sur l'adoption, nous proposons une réforme d'ensemble, et Hubert Bosse-Platière vous en présentera les grandes lignes. Sur l'engendrement avec tiers d'honneur, Anne-Marie Leroyer vous en parlera. Nous proposons également une véritable réforme afin d'en finir avec le modèle ni vu ni connu, hérité des débuts de l'assistance médicale à la procréation. Dans le volume 2, Agnès Fine vous en parlera, nous traitons longuement de la question de l'accès aux origines et nous défendons un véritable droit d'accès aux origines pour les personnes pupilles adoptées, nées ou pas nées sous X. Et également, elles l'ont un petit peu ce droit. Mais nous défendons également ce droit d'accès aux origines pour ceux qui ne l'ont pas du tout, c'est-à-dire tous les enfants nés d'assistance médicale à procréation avec un tiers donneur. Enfin, pour conclure, je voudrais dire pour quelles raisons nous avons sous-titré ce rapport « Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle », peut-être par un certain agacement partagé par Anne-Marie et moi, de voir que certains s'arrogent le monopole des valeurs en matière familiale, un peu trop facilement. Que certains aient le monopole de regretter les valeurs anciennes, ça peut être. Mais nous, dans notre travail, nous avons constaté que non seulement les valeurs familiales n'ont pas disparu, mais qu'il y a l'émergence de nouvelles valeurs familiales accompagnant la métamorphose contemporaine de la filiation et plus largement des valeurs, des relations aux enfants. Alors bien sûr, les références ne sont plus les mêmes qu'au temps du mariage traditionnel, de la hiérarchie des sexes, de la stigmatisation des enfants naturels, de l'interdiction du divorce ou de la pathologisation de l'homosexualité. Mais contrairement à ce que répètent à l'envi les nostalgiques de l'ordre matrimonial de la famille, les valeurs de transmission, de dévouement, d'attention, de soins, d'éducation n'ont pas disparu avec l'avènement du démariage. Transformées, renouvelées, elles sont plus vivantes que jamais. Nous les avons rencontrées dans les pratiques, dans les attentes à l'égard du droit dont nous ont témoigné tous ceux que nous avons auditionnés et à chacune des étapes de notre réflexion. Ce qui rassemble ces valeurs, par-delà les exigences de liberté et d'égalité qui étaient déjà caractéristiques des grandes réformes des années 70, c'est un certain rapport au temps. Conjuguant différentes dimensions, peuvent s'inscrire les distinctions de sexe, d'âge, de génération. Alors premièrement, le principe d'indissolubilité, je l'ai dit, n'a pas disparu. Il s'est déplacé du mariage vers la filiation. Dans une société où on peut tout perdre, du jour au lendemain, son travail, sa maison, l'amour de son conjoint, la filiation contemporaine veut assurer à tous les enfants la sécurité d'un lien différent de tous les autres. Le seul lien social conçu désormais comme inconditionnel et fait pour durer la vie entière, quelles que soient ses modalités d'établissement et quel que soit le sexe du couple des parents ou leur statut conjugal. Deuxièmement, loin d'enfermer l'enfant dans le cercle de la petite famille nucléaire, la filiation l'ouvre, aujourd'hui comme hier, vers ses ascendants, grands-parents, arrière-grands-parents, aïeux, tout en le préparant à se soucier un jour de ses descendants. La transmission du nom, du patrimoine, de la mémoire, des valeurs, a beaucoup changé, mais elle continue de nous rappeler que la filiation ne se conjugue pas seulement au présent, ni même dans le temps long de la vie. Elle participe aussi directement de la temporalité transgénérationnelle liant les vivants à la fois à la mémoire de ceux qui ne sont plus et à l'esquisse anticipée de ceux qui ne sont pas encore. Lorsque les parents de l'enfant, maintenant, troisième question, ne sont pas ses géniteurs, le prix accordé à l'engagement parental dans l'établissement de la filiation a remplacé, ça sera développé par mes collègues, l'ancien impératif de mimer une procréation tout en cachant, comme on le faisait, à l'enfant la réalité de sa propre histoire. La perception croissante de l'accès aux origines comme un droit fondamental de la personne témoigne d'un rapport nouveau à la temporalité biographique, d'une attention inédite à l'histoire personnelle de l'enfant qui a cessé de se fondre dans celle des adultes, selon les intérêts bien compris de ces adultes. Un nouveau devoir est ainsi apparu pour les parents, celui d'assurer à l'enfant les conditions élémentaires de construction de son identité narrative. Enfin, presque enfin, la place spécifique qu'occupent les beaux-parents dans les familles recomposées démontre qu'avec la filiation inconditionnelle et indissoluble, d'autres liens sont possibles entre les enfants et les adultes qui prennent soin d'eux et veillent à leur éducation. Des liens fondamentalement électifs, dont la durée, c'est vrai, cette fois, tiendra principalement à la profondeur de l'affection partagée. L'amour entre les beaux-parents et les beaux-enfants, c'est un amour sans filet. L'univers de la parenté s'ouvre ici vers d'autres relations, d'autres attachements, rappelant que les miens ne sont pas le tout de la famille. À la tentation du repli, volet clos, porte refermée, a succédé le pari difficile, ambitieux, d'une nouvelle hospitalité familiale. Enfin, la modalité accrue, la mobilité accrue, l'importance des migrations dans un monde globalisé transforme la temporalité par la mixité croissante des couples, le vaste métissage des lignées. L'ouverture de la famille à l'autre, l'étranger, le différent, n'est plus vu aujourd'hui seulement ou principalement comme un risque pour l'intégrité du groupe, mais aussi comme une chance pour les individus. Une chance de changer, d'ouvrir son futur vers des possibilités inconnues. Une chance aussi de se poser, de s'intégrer, de donner à l'insoutenable légèreté d'un présent sans attache le lest de nouveaux enracinements. Le principe de responsabilité et le cœur de ces valeurs qui lient aujourd'hui les adultes, parents et non-parents, aux enfants dont ils prennent soin. Ils se redoublent d'un attachement renouvelé à la transmission entre les générations, dans un monde où l'assignation à un présent sans passé ni futur est devenue le symbole même de la relégation sociale. C'est ce double aspect que nous avons voulu souligner en parlant, dans sous-titre de notre rapport, de nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle. Je vous remercie. Et... Merci à Anne-Marie Leroyer, qui va donc nous parler introduire la question de la filiation et en particulier donc de nos propositions sur l'assistance médicale à la procréation.
Merci Irène, et je dois dire que je suis particulièrement émue d'être aujourd'hui ici au terme d'une aventure commune. Irène Derry m'a fait confiance, moi la juriste, moi la petite juriste, pour partager avec elle cette grande expérience de proposition de réforme du droit de la famille. Je dois aussi remercier et tous les membres de notre groupe de travail. Comme je l'ai dit en arrivant, je me sentais très juriste et très ignorante des apports des autres disciplines. Et progressivement, je n'étais plus la juriste, mais Anne-Marie. Et cette confiance, en réalité, a été très enrichissante. Et comme l'a justement expliqué Irène en aparté, mais tu as changé d'avis. C'est là tout l'apport de ce travail interdisciplinaire, de pouvoir changer d'avis. Je voudrais aussi saluer ma doctorante, Maïté Saulier, qui nous a aidés dans le secrétariat de ce travail de manière exceptionnelle. Je lui rends particulièrement hommage aujourd'hui. Elle est là au début parce que quand on engage des jeunes dans un travail, autant nous avons cette mission de travailler, j'allais dire, pour le bien public, autant les jeunes s'y donnent à cœur joie, mais voilà, dans une optique tout à fait vraiment très, très agréable. Voilà, l'émotion me fait perdre mes mots. Je voudrais aujourd'hui évoquer cette partie de réflexion prospective relative à la filiation. Nous avons réfléchi sur les différents modes d'établissement de la filiation et en particulier sur l'établissement de la filiation de l'enfant qui est né d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Dans cette figure-là, vous savez qu'en 1994, lorsque le législateur est intervenu pour poser les modes d'établissement de la filiation de l'enfant né d'un don, il a choisi d'inscrire les modalités d'établissement de la filiation dans le moule de la filiation par procréation charnelle. Le père devait reconnaître l'enfant. Lorsque les parents étaient mariés, la présomption de paternité jouait. Et à l'époque... l'ensemble de la communauté, y compris juridique, et je dirais en premier lieu juridique, s'est étonné d'avoir choisi ces modalités d'établissement-là en montrant l'illogisme qu'il y avait de couler finalement la filiation qui est constituée à l'aide d'un engendrement avec don sur la filiation par procréation charnelle afin de répondre à un modèle qui était celui de la filiation biologique et donc d'inscrire la filiation par procréation avec don dans le moule de ce modèle-là. Et on a eu beau dénoncer l'illogisme de la solution, c'est un choix politique assumé qui a été fait à l'époque, notamment pour la raison évoquée alors, qui était de dire on ne va pas stigmatiser les parents qui recourent à une assistance médicale à la procréation avec don, et donc les modes de preuve doivent être les mêmes pour tous. Mais ce faisant, le paradoxe de cette volonté d'assimiler l'ensemble des parents dans une même logique, c'est fait vraiment très prégnant, c'est-à-dire que l'on a érigé en modèle juridiquement la filiation par procréation charnelle. Et donc, nous avons essayé de penser comment est-ce que nous pourrions admettre une filiation, c'est-à-dire des parents qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, tout en reconnaissant une pluralité des modalités d'établissement, une filiation qui repose sur la procréation charnelle et qui s'établirait donc par la reconnaissance, l'accouchement, la présomption de paternité, une filiation par engendrement avec tiers donneur qui s'établirait par la volonté, une filiation fondée sur l'adoption qui s'établit aussi par la volonté. Et donc c'est cette pluralité des modalités d'établissement que nous avons voulu penser. On a essayé de céder du droit comparé pour réfléchir sur les modalités d'établissement. En droit comparé, et là vous me pardonnerez de faire un raccourci parce que le temps nous manque, mais on peut dénoter trois systèmes différents. Il y a des systèmes comme le nôtre, par exemple en Belgique et aux Pays-Bas, où effectivement on va faire en sorte que la filiation de l'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation avec don s'établisse de la même manière que la filiation de l'enfant issu d'une procréation charnelle. Ce sont les mêmes modes de preuve, et notamment dans le couple marié, on va utiliser la présomption de paternité. Le Québec est un peu plus loin dans cette voie-là, puisque vous savez, pour les couples de femmes mariées, il a instauré une présomption de comaternité. Donc on reste dans ces pays-là, dans une logique où le modèle biologique est mis en avant. Dans d'autres pays, à l'inverse, l'établissement de la filiation de l'enfant issu d'une assistance médicale à procréation avec tiers donneur s'établit par la voie de l'adoption. C'est le cas, par exemple, pour la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas qui ont ouvert l'assistance médicale à la procréation couple de femmes. La compagne ou la femme de la mère doit adopter l'enfant de l'autre. Nous avons pensé que l'adoption était un mécanisme trop lourd, qui ne correspondait pas du tout à la philosophie de l'assistance médicale à la procréation, ni dans ses conditions, ni dans son processus, puisqu'il permet finalement d'établir la filiation d'un enfant déjà né. Et donc on s'est tourné vers d'autres pays, et d'autres pays qui consacrent l'utilisation de déclarations de volonté. J'en citerai deux exemples. Au Royaume-Uni, les couples de femmes ont accès à l'assistance médicale à la procréation. La femme qui accouche est la première mère de l'enfant et sa compagne deviendra la deuxième mère de l'enfant par le biais d'une déclaration de volonté formulée en commun dans un acte qui s'appelle un Agreed Female Parenthood et qui donc établit la filiation à l'égard de la seconde mère. En Espagne, également, on a un système de déclaration de volonté qui a été consacré en 2007 et qui n'a été consacré, curieusement, que pour les femmes mariées, alors que l'assistance médicale à la procréation est ouverte aussi aux femmes non mariées. La femme de la mère déclare qu'elle veut être la seconde mère de l'enfant en manifestant sa volonté au registre civil. Je ne multiplierai pas les exemples, mais il nous a semblé que finalement reconnaître la pluralité des modalités d'établissement de la filiation de ces enfants devait s'inscrire dans la voie d'une déclaration de volonté qui ne mimerait pas la filiation par procréation charnelle. Et donc notre idée a été de proposer la consécration d'un mode d'établissement sui generis qui vaudrait pour tous les couples, que les couples soient mariés ou qu'ils ne le soient pas, que le couple soit hétérosexuel ou qu'ils soient homosexuels, tous les couples qui recourent à l'assistance médicale à la procréation pourraient établir la filiation de la même manière. Comment ? Par une déclaration de volonté qu'on a appelée, en l'occurrence, puisqu'il s'agit ici de vérifier l'accès des couples à l'assistance médicale à la procréation, une déclaration commune, anticipée, de filiation. Les parents qui ont ce projet s'engagent à l'avance, au moment où ils donnent leur consentement à l'assistance médicale à la procréation, à être les futurs parents de l'enfant. C'est en quelque sorte, on pourrait dire, une analogie avec ce qui existe pour la procréation charnelle, pour le père, la reconnaissance anticipée, finalement, de l'enfant. Ici, on aurait une déclaration anticipée, mais la différence de vocabulaire veut marquer le fait que notre déclaration anticipée ne repose pas, a priori, sur le modèle de la filiation biologique. Alors ensuite, évidemment, la question se pose de savoir comment cette déclaration anticipée va établir la filiation à l'état civil. Et c'est la difficulté que nous avons rencontrée pour tous les modes d'établissement de la filiation. L'état civil, et plus particulièrement l'acte de naissance, est le moyen par lequel tout un chacun c'est plutôt le moyen dont tout un chacun dispose pour faire la preuve de son identité et pour faire la preuve notamment de sa filiation. Et cet état civil, nous avons constaté que, plus particulièrement l'acte de naissance, quand on le lit, on peut prendre connaissance de plusieurs éléments. On prend connaissance de la filiation de l'enfant, c'est-à-dire de ses liens avec ses parents, mais on prend connaissance aussi sur l'état civil, quand on le lit intégralement, des modalités d'établissement de la filiation. Aujourd'hui, quand on lit un acte de naissance dans son intégralité, on voit s'il a été reconnu, si ses parents étaient mariés ou pas, s'il a été adopté. Et donc, on a connaissance du mode d'établissement de la filiation autant que de la filiation. Et cette communication au tiers, à la fois de la filiation et des modalités d'établissement de la filiation, nous a semblé troublante. En réalité, quelle est la fonction de l'acte de naissance ? C'est une fonction d'identification et de preuve. Vous pouvez, dans une succession, avoir besoin de prouver votre filiation. Que suffit-il alors de produire ? Il suffit alors de produire un extrait d'acte de naissance. Or, l'extrait d'acte de naissance ne mentionne pas le mode d'établissement de la filiation. Il mentionne la filiation. Et c'est suffisant. Et le raisonnement qui peut être conduit, que je conduis ici sur les successions, peut être conduit sur tous les éléments dont l'individu a rapporté la preuve dans les exigences qu'il a pour le mariage, que sais-je encore. Et donc, on constate que l'on peut faire une dissociation au sein des modalités de communication des actes de naissance entre, d'une part, la communication des extraits, qui vont mentionner la filiation, qui est la même pour tous, et qui peut être communiquée au tiers sans porter atteinte à sa vie privée, et la communication de l'intégralité de l'acte de naissance, ce qu'on appelle la communication de la copie intégrale de l'acte de naissance, qui révèle le mode d'établissement et qui, en ce qui concerne cette révélation, porte atteinte à la vie privée de l'intéressé. De nombreux pays membres de la Commission internationale de l'état civil ont déjà depuis longtemps réfléchi à cette atteinte à la vie privée. On voit l'adoption sur la copie intégrale de l'état civil. Lorsqu'il est question de se marier, lorsqu'il est question d'acquérir la nationalité française, lorsqu'il est question de succéder, ce que l'on veut, c'est connaître le lien de filiation, pas savoir si l'enfant a été adopté. Eh bien, c'est la même chose pour tous les modes d'établissement. C'est-à-dire que notre réforme de la filiation, notre réforme des modes d'établissement de la filiation, cette pluralité de reconnaissance doit s'accompagner, en outre, d'une réforme de l'état civil pour bien prendre conscience qu'il y a effectivement des modalités de communication qui devront être changées. Nous pourrons admettre la communication d'extrait pour établir la filiation. Nous ne pourrons pas admettre la communication de la copie intégrale qui révèle les modes d'établissement de la filiation. Cette copie intégrale ne pourra être communiquée qu'à l'intéressé et à ses ascendants. Et de manière tout à fait exceptionnelle, s'il existe un contentieux sur les modes d'établissement, un contentieux sur l'adoption, un contentieux sur la reconnaissance, on peut penser que oui, le juge peut demander à en avoir communication. Et c'est donc une communication restreinte que l'on propose, qui permet à la fois d'éclairer l'individu sur son identité, de faire en sorte que l'état civil et l'acte de naissance restent ce qu'il est, un lieu de mémoire, parce qu'y est inscrit le mode d'établissement de la filiation jusqu'au décès de la personne, et qu'il reste pour la société civile ce qu'il est, un instrument d'ordre public, d'établissement de l'identité de l'individu. Mais pour avoir cette double fonction, il faut admettre une dualité des modalités de communication. C'est en pensant concomitamment, finalement, la réforme des modalités d'établissement de la filiation et la réforme de l'état civil que nos propositions s'articulent intelligemment. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Anne-Marie. Donc, notre groupe est arrivé à cette solution par de nombreuses discussions et nous sommes très heureux d'être arrivés au consensus sur cette déclaration commune anticipée de filiation qui n'est pas une déclaration sur le mode de conception de l'enfant. Ça n'a rien à voir. Dans cette déclaration commune anticipée de filiation, on ne dit pas qui est le parent biologique, qui n'est pas le parent biologique, s'il y a eu un don de sperme, don d'embryon. Non, c'est, et on ne sépare pas les deux. Elle est bien commune, elle est anticipée, elle est commune. On a eu plus de mal avec la gestation pour autrui. Hein. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Notre groupe n'a pas été constitué pour que tout le monde soit d'accord avec moi, en gros. Voilà. Donc, ce que nous avons cherché à faire, c'est, sérieusement cette fois, c'est à rassembler des personnes extrêmement compétentes de ce sujet, mais qui, justement, n'étaient pas d'accord entre elles, mais étaient d'accord pour se parler, et se parler autrement qu'on ne le fait sur la gestation pour autrui en France depuis quelques années, c'est-à-dire sans échanger des injures, des anathèmes, en s'écoutant mutuellement, sans s'accuser de ceci ou de cela. Hein. Pas une fois, tu ne m'as dit que je voulais vendre des bébés sur Internet, et pas une fois, je ne t'ai traité d'homophobe, etc. Je le dis parce que c'est possible et c'est très important. Notre groupe considère unanimement qu'il est urgent qu'on puisse prononcer le mot de gestation pour autrui dans ce pays d'une façon normale. Johan Sausson, qui est ici, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain, je le dis, a publié une somme sur la gestation pour autrui de 500 pages où on montre qu'on peut avoir un débat académique normal sur ce sujet de l'autre côté de nos frontières. Et nous sommes très heureuses d'avoir pu bénéficier dans notre groupe de ces lumières sur ce sujet. Et donc, Jérôme, il te revient de nous dire sur quoi on a pu finalement se mettre d'accord.
Merci, Irène. La gestation pour autrui est reconnue comme une technique médicale de procréation par l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, elle reste prohibée en France depuis la première loi de bioéthique en 1994 et dans les faits depuis une décision de la Cour de cassation en 1991. Mais je parle sous le contrôle de mes amis juristes. Lorsqu'on réfléchit à la gestation pour autrui, en réalité, deux points sont à distinguer. Le premier, d'abord, la pratique de la gestation pour autrui est-elle, de manière générale, acceptable sur le plan éthique et juridique ? Plusieurs questions se posent en réalité, j'en citerai quatre. Plusieurs adultes peuvent-ils s'entendre pour qu'une femme se substitue à une autre pour porter un enfant ? Une femme peut-elle décider, en toute liberté, de porter un enfant pour un couple qui ne pourrait en avoir autrement ? Nous touchons là à la capacité qu'a chacun, chacune, de disposer de son propre corps et aux limites de cette disponibilité. Dans l'hypothèse où on répond oui à ces deux questions, cette gestation pour autrui doit-elle faire l'objet de compensation, d'une indemnisation matérielle et financière ? Quatrième question, du point de vue de la parenté, avec la gestation pour autrui, la médecine reproductive a introduit un changement inédit dans la parenté. La fonction maternelle d'engendrement peut désormais être partagée par deux voire trois femmes, celle qui élabore le projet d'avoir un enfant et de devenir mère, celle qui fournit l'ovocyte à partir duquel sera conçu l'embryon, lorsqu'il y a recours à un don d'ovocyte, celle enfin qui porte l'enfant et en accouche. Cela contribue sans nul doute à notre trouble. Le second point maintenant que nous voulons distinguer, comment prendre en considération les situations concrètes et les enfants déjà conçus grâce au recours à une GPA à l'étranger, élevés par des parents français qui ont souhaité ardemment leur venue au monde et en sont même le plus souvent les géniteurs. Il n'est pas question de nier les logiques de marchandisation du ventre des femmes. Elles constituent un risque réel dans différents contextes nationaux où l'on fait peu de cas de l'assentiment, de l'autonomie et de la dignité des femmes. Unanimement, nous les condamnons. Mais en même temps, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur des États qui, y compris en Europe, ont choisi une autre voie que celle jusqu'ici choisie par la France et ont décidé d'encadrer juridiquement cette pratique sur leur territoire selon des modalités qui peuvent beaucoup varier d'un État à l'autre. Pour réfléchir à la gestation pour autrui, il est donc indispensable de retrouver toute la sérénité nécessaire, Irène vient de le souligner, d'éviter sans tomber pour autant dans une forme d'angélisme ni de candeur toute position idéologique et d'examiner de près les faits. C'est ce que nous avons essayé de faire dans le groupe, si bien que, malgré des avis divergents sur la gestation pour autrui, en tant que pratique sociale au sein de notre groupe de travail, nous sommes parvenus à une forme de consensus. Mais d'abord, nous avons dressé un constat. Les conséquences issues de la jurisprudence peuvent être récapitulées ainsi. La transcription des actes d'état civil élaborés à l'étranger dans les cas de gestation pour autrui est impossible. Le jugement étranger conférant aux parents d'intention la qualité de parent juridique n'est pas reconnu en France. La possession d'état ne peut pas permettre l'établissement de la filiation à l'égard des parents d'intention. Enfin, le père biologique ayant sollicité la femme porteuse étrangère ne peut plus valablement reconnaître l'enfant. Sans prétendre à l'exhaustivité, il faut insister sur certaines implications particulièrement graves pour l'enfant de la position de la Cour de cassation. Il est d'abord aujourd'hui impossible pour un enfant né d'une gestation pour autrui d'obtenir un acte d'état civil français. Cela présente un inconvénient majeur, évidemment, pour l'enfant et ses parents. S'ils peuvent certes, en pratique, faire certaines utilisations de l'acte de naissance étranger, le risque réel est que cet acte soit rejeté ou contesté par les administrations, qui, confrontées à un acte étranger, craignent systématiquement ou presque une fraude. Inévitablement, même munis de cet acte étranger, les parents d'intention vont se trouver face à des difficultés concrètes majeures. Ils vont devoir obtenir pour l'enfant un titre de voyage et de séjour, puisque l'enfant n'a pas la nationalité française. Il est probable que les administrations n'admettent plus désormais que l'acte étranger prouve une filiation dont la validité risque d'être contestée en droit français par la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation, a estimé que la naissance est intervenue dans le cadre d'un processus frauduleux. Cette difficulté sera récurrente devant toutes les administrations pour les inscriptions à l'école ou encore la perception des prestations sociales. En outre, dans la mesure où la filiation n'est pas réputée établie entre l'enfant et les parents d'intention, ceux-ci n'ont fondamentalement aucun titre à exercer l'autorité parentale. Cet aspect des choses, déjà préoccupant en lui-même, ne peut manquer de soulever les difficultés collatérales en cas de décès ou de séparation. Pour la même raison, en l'absence de legs ou de testament, les enfants n'auront aucune vocation successorale à l'égard de leurs parents d'intention. Devant ce constat, le groupe de travail s'est accordé sur la nécessité d'envisager des solutions propres à permettre une prise en compte humaine et satisfaisante de l'intérêt de l'enfant. Plusieurs voies ont été envisagées, les options dont nous avons débattu au sein du groupe de travail, même si nous, ne les avons finalement pas retenues, sont exposées dans le rapport. Nous considérons qu'il est de l'intérêt de l'enfant né de gestation pour autrui de ne pas être privé d'état civil français. Nous prônons donc une reconnaissance automatique des situations valablement créées à l'étranger. Nous pensons que cette reconnaissance doit s'accompagner d'un engagement ferme de la France pour la création prochaine, sur le modèle de la Convention de l'AE sur l'adoption, d'un instrument international de lutte contre l'asservissement des femmes via l'organisation de gestation pour autrui, contraire aux droits fondamentaux de la personne. Merci.
Alors, merci beaucoup, Jérôme. Hubert, il vous revient donc de présenter, dans un temps record, quand même deux chapitres et demi de notre rapport qui propose une grande réforme globale de l'adoption et dont vous avez été, je le dis parce que vous n'oserez peut-être pas le dire vous-même, le principal rédacteur avec Marianne Schulz, que nous remercions. Donc, je vous remercie deux fois d'avoir écrit ces chapitres et de venir les présenter.
Merci Irène. Ah, ça fonctionne ? Oui ? Merci Irène. Je voulais commencer en disant que vous entendez qu'une seule voix qui sort de ma bouche, mais cette présentation a été faite en binôme avec Marianne Schulz, dont je salue ici les compétences et avec qui j'ai eu le plus grand plaisir à discuter et à échanger sur l'adoption. Alors, puisque l'objectif, c'est quand même de vous donner l'envie de lire ce rapport, j'aimerais, avant de présenter brièvement les différentes propositions, les différentes mesures phares, vous dire ce que vous ne trouverez pas en lisant ce rapport, pour éviter toute déception inutile. Ce rapport n'est pas un énième document préconisant des retouches nécessaires au processus d'adoptabilité de l'enfant. Vous ne trouverez rien ou presque rien sur une réforme du statut des pupilles de l'État, rien sur l'agrément à l'adoption, pas grand-chose non plus ou presque rien sur la déclaration judiciaire d'abandon, rien même sur la question très épineuse des échecs, des échecs à l'adoption. Tout ça s'explique très facilement et rejoint la présentation qui a été faite par Irène. Le groupe n'a pas souhaité réfléchir à l'adoption comme mode de protection, comme outil de protection de l'enfance. Il s'est situé à un tout autre niveau qui nous est apparu tout aussi essentiel et qui trouve bien entendu sa cohérence avec les autres mesures présentées dans ce rapport. La réflexion a porté davantage sur la place que doit ou peut être menée à jouer l'adoption dans les prochaines années, ou même décennies, soyons fous, en tant que mode d'établissement du lien de filiation. Donc c'est davantage le code civil qui nous intéressait, l'adoption en tant que structure familiale, et une telle approche supposait évidemment de mettre en perspective l'ensemble des modes d'établissement du lien de filiation, dont il vient d'être rappelé, l'adoption n'est qu'une des modalités. Pour dire les choses autrement, il ne s'agissait pas de regarder l'adoption de l'intérieur, mais en définitive, pour une fois, de l'extérieur. Quel est le constat qui a été fait par le groupe de travail ? Le constat, c'est que la grande loi sur l'adoption, on le sait tous, c'est la loi de 66, du 11 juillet 66, et s'il y a eu depuis de très nombreuses réformes législatives, ces réformes, pour la plupart d'entre elles, n'ont été que des retouches législatives. Il n'y a pas eu de refonte complète du système. La dualité adoption plénière, adoption simple date de cette époque. Constat toujours, en 66, ce modèle était marqué, ça a été déjà rappelé, par un modèle matrimonial. L'adoption reste liée au mariage, et c'est toujours le cas aujourd'hui, alors que toute l'évolution, on pourrait dire, du droit civil de la famille depuis les années 70 a montré cette dissociation entre le droit des enfants d'un côté et les statuts conjugaux de l'autre. On pourrait dire une désolidarisation quasi complète du droit du mariage et de la filiation. Le statut des enfants ne doit plus dépendre du statut conjugal. De ce point de vue-là, l'adoption n'a pas suivi l'évolution des autres matières de la famille. Autre remarque, autre constat qui a été fait par le groupe, c'est que la loi de 66, qu'elle le veuille ou non, a instauré une hiérarchie, modèle matrimonial, hiérarchisation aussi, on retrouve cette idée-là sur le terrain de l'adoption, une hiérarchie entre les deux formes de l'adoption. L'adoption plénière, dans le code civil, demeure le modèle dominant et avait été pensé à l'époque comme une mesure de protection des enfants abandonnés, principalement les pupilles de l'État, puis ensuite, on le sait, le développement de l'adoption internationale. À côté de cela, l'adoption simple n'était appelée qu'à jouer un rôle de second rang, un rôle subalterne, même si elle était ouverte sans condition d'âge, son terrain d'élection devait être l'adoption d'enfants majeurs et l'adoption intrafamiliale. Là aussi, constat du groupe de travail, l'utilisation qui a été faite depuis 20, 30 dernières années des deux formes de l'adoption ne correspond plus à ce qui avait été voulu par le législateur de 66. L'adoption simple, en particulier, est entrée en concurrence avec l'adoption plénière comme mode d'adoption des enfants abandonnés. Cela tient en particulier à l'évolution du profil de ces enfants, plus âgés, dits pour certains besoins spécifiques. Et l'adoption plénière, par sa radicalité, fameuse rupture des liens avec la famille d'origine, n'apparaît pas toujours adaptée, opportune, comme mode d'établissement du lien de filiation. Il y a d'autres raisons, je renvoie au rapport, je n'ai pas le temps, mais en particulier, le développement de l'adoption internationale explique aussi, d'une certaine manière, le succès relatif, mais le succès tout de même de l'adoption simple pour des enfants mineurs, parce que nombre de pays d'origine ne connaissent que l'adoption simple. Mais autre constat encore qui a été fait par le groupe de travail, c'est que l'adoption simple a été, et l'adoption plénière également, a été utilisée cette dernière décennie principalement, un peu plus, pour assouvir, pour permettre la reconnaissance des nouvelles formes de famille, famille dite homoparentale, famille recomposée. Or, cette forme d'adoption, adoption dite de l'enfant du conjoint, n'a strictement rien à voir et d'une autre nature que l'adoption de l'enfant abandonné. c'est la jurisprudence qui a fait du bricolage jurisprudentiel et qui, au coup par coup, a essayé de mettre en place un régime juridique sur cette forme d'adoption. Ce n'est pas la même chose d'adopter un enfant abandonné ou d'adopter l'enfant de son conjoint. D'un côté, on a une adoption protection pour les enfants privés d'une famille, qui peut d'ailleurs passer par une adoption plénière ou pour une adoption simple, on vient de le dire, adoption substitutive ou adoption additionnelle. De l'autre côté, on a une adoption qu'on pourrait qualifier d'adoption consolidation pour les enfants qui sont élevés dans une famille où l'un des parents est un parent social, adoption complétive, on pourrait même dire adoption coparentale. Alors, quelles sont, à partir de ce constat, les principales propositions que nous faisons dans le cadre de ce rapport ? D'abord, en lien avec ce qui avait été dit, ça ne va pas vous surprendre, ouvrir l'adoption à tous les couples, achever en définitive la dissociation entre conjugalité et filiation qui ne demeure plus qu'en matière d'adoption. Recentrer également l'adoption sur la création d'un véritable lien de filiation. On a trop souvent, en jurisprudence, des adoptions, en partie des adoptions simples, qui sont motivées à des fins successorales. Il y a d'autres propositions qui sont faites dans le rapport pour espérer mécaniquement déplacer en particulier des fameuses adoptions simples d'enfants majeurs qui deviennent un fait majoritaire puisque 2/3 des adoptions aujourd'hui sont des adoptions simples et particulièrement d'adoptions simples d'enfants majeurs à des fins principalement patrimoniales, de les déplacer mécaniquement vers un autre régime. Supprimer la hiérarchie entre adoption plénière et adoption simple, ce qui suppose de reprendre le code civil, de le restructurer et de mettre en exergue les points communs. Et nous proposons réellement une réécriture complète de ce point de vue-là, de la présentation même de la partie du code civil sur l'adoption. Mettre un terme à la fiction qui entoure l'adoption plénière, ça vient d'être rappelé par Anne-Marie, l'adoption plénière ne doit plus être une nouvelle naissance effaçant à l'état civil son identité d'origine, l'identité d'origine de l'enfant, mais s'inscrire dans son histoire. Donc, très logiquement, on propose la position d'une mention en marge de acte de naissance intégral, afin de garantir la transparence, de faciliter la connaissance des origines. Deux dernières propositions importantes, me semble-t-il. Faire de l'adoption simple une véritable mesure de protection des enfants privés de famille. Il s'agit de valoriser, clarifier l'adoption, sécuriser son régime. Une proposition importante, par exemple, poser un principe d'irrévocabilité de l'adoption simple au même titre que l'adoption plénière, sauf motif grave. Tout ça pour promouvoir l'adoption simple, la situer au même niveau que l'adoption plénière, étendre en particulier la notion de placement, qui actuellement n'est réservée qu'à l'adoption plénière, à l'adoption simple. Bref, une véritable remise à plat du régime de l'adoption simple. Et enfin, dernière mesure phare, me semble-t-il, la création d'un régime spécifique, autonome, dit de l'adoption de l'enfant du conjoint, mais bien entendu adoption de l'enfant du concubin et du partenaire pacsé, puisque c'est ouvert à tous les couples. C'est un régime spécifique que l'on envisage, qui est autonome et qui est présenté de manière autonome dans le Code civil, avec en particulier la création d'un régime particulier, dérogatoire, au droit commun de l'adoption simple, droit commun est entendu comme l'adoption protection de l'enfance. Ici, ce serait une adoption qui aurait une autre finalité. Et on fait des propositions sur les effets de l'adoption simple, où là, les parents sont à égalité, où il n'y a pas de supériorité, de hiérarchisation entre, d'un côté, la filiation adoptive, qui serait première par rapport à la famille par le sang. Bref, c'était une réécriture complète de cette partie d'adoption du Code civil qu'invite ce rapport. Donc, il faut le lire de toute urgence.
Merci. Je dois dire d'ailleurs à cette occasion que nous avons travaillé en bonne intelligence avec un autre groupe de travail, qui était le groupe dirigé par notre collègue Adeline Goutenoir, qui a été chargée également par Dominique Bertinotti d'une mission sur la protection de l'enfance et l'adoption. Et c'était vraiment réparti un peu spontanément les rôles, elle travaillant vraiment sur la pratique concrète des agréments aujourd'hui, etc., alors que nous engageons cette réflexion prospective. Mais il y a eu vraiment, sans qu'il y ait de concertation entre les groupes, on a travaillé de façon indépendante. Mais je pense que les deux rapports devront être lus par le public, par les politiques, parce qu'on espère aussi que le rapport d'Adine Gouttenoir va sortir, parce que nous n'avions pas été les seuls à être mis au placard. Donc, on en profite pour faire la promotion des copains. Donc, on souhaiterait aussi que ce rapport soit rendu public. Alors, j'ai dit tout à l'heure, les familles homoparentales ont été traitées comme des familles comme les autres. Et donc, eh bien, chaque fois que Hubert a parlé d'une disposition, elle concernait aussi bien les familles homoparentales que les familles hétéroparentales. Mais c'est peut-être intéressant tout de même d'essayer de se représenter ce qu'il adviendrait pour ces familles si les préconisations de notre rapport étaient suivies. Martine Gross a porté à chaque instant, depuis des années, dans le milieu de la recherche, la question de l'homoparentalité. C'est elle qui a lancé les recherches en sociologie, en anthropologie, en sciences sociales en général sur l'homoparentalité. C'est aussi une femme engagée. Elle a porté aussi cet engagement dans notre groupe de travail. Nous avons bénéficié d'enquêtes qui ne sont même pas encore publiées. Nous l'en remercions. Et donc, elle va faire un état un petit peu, justement, de ce qui se passe quand on traite les familles homoparentales comme des familles comme les autres. Okay.
Merci, Irène. Donc le rapport ne contient pas, on vous l'a dit, de chapitres spécifiques sur les familles homoparentales, mais les réalités homoparentales le traversent de part en part. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison est que les familles homoparentales sont un révélateur des questions que pose au droit la diversité contemporaine des configurations familiales. Les familles homoparentales ont révélé à quel point notre droit de la famille tente de raccrocher coûte que coûte, toutes les sortes de familles à un seul modèle, le modèle père-mère-enfant, où les dimensions biologiques, juridiques et parentales sont confondues. Notre droit de la filiation cherche à mimer les liens de procréation. Ce modèle pseudo-procréatif conforte une hiérarchie entre les modalités d'accès à la parenté. Tout en haut de la hiérarchie, selon le modèle actuel, la filiation charnelle qui consacre les parents qui procréent par eux-mêmes, qui serait plus vrai, entre guillemets, que les autres. Les autres modalités d'accès à la parenté, adoption et assistance médicale à la procréation, n'en sont actuellement que de pâles copies. Les familles avec des parents de même sexe ne peuvent évidemment se glisser dans ce modèle puisque ces parents ne peuvent faire comme s'ils avaient procréé. La loi du 17 mai 2013 constituait un premier pas vers la reconnaissance qu'il existe une distinction entre être né d'eux et être fils ou fille d'eux. Les propositions du rapport envisagent un nouveau droit de la filiation qui délie la filiation de la procréation en ce qui concerne l'adoption et l'assistance médicale à la procréation. Un droit de la filiation pour lequel les parents adoptifs et les parents ayant eu recours à l'AMP ne sont pas moins vrais parents que les autres. La deuxième raison est que le rapport répond à de nombreuses demandes permettant ce que l'ouverture du mariage avait commencé, à savoir inscrire les familles homoparentales dans la réalité juridique et sociale de notre pays. Si les propositions que ce rapport contient étaient adoptées, ces familles seraient traitées définitivement comme des familles comme les autres. En effet, ces propositions ont été pensées, non pas pour les familles homoparentales en particulier, mais comme Irène vous l'a dit, pour toutes les familles. Elles font disparaître la hiérarchie implicite entre les trois modalités d'accès à la parenté, leur donnant à chacune une existence spécifique et les mêmes droits et obligations. Dans l'adoption et dans l'AMP, il ne s'agit plus de faire passer les parents pour des géniteurs. Il s'agit de donner au projet parental une place fondamentale, notamment pour l'AMP, en mettant au même niveau celui ou celle qui a procréé et celui ou celle qui ne l'a pas fait. Les deux seraient parents du seul fait de l'expression de leur projet parental commun. La mère qui porte l'enfant et sa compagne ou son compagnon qui a eu recours à un don de sperme pour qu'elle soit enceinte, sont autant parents l'un que l'autre. C'est leur projet commun qui les fait parents. Quelles sont les propositions contenues dans le rapport qui répondent aux demandes exprimées de longue date par les familles homoparentales ? Ces propositions concernent l'adoption, le recours à l'AMP, les dispositions pour les tiers et la transcription de l'état civil des enfants nés de GPA. En ce qui concerne l'adoption, l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés et son corollaire, l'adoption de l'enfant du conjoint, du concubin ou du pacsé. Cette proposition n'oblige plus les couples à se marier pour pouvoir adopter l'enfant qu'ils élèvent ensemble. Autoriser l'adoption simple de l'enfant par le conjoint de chacun de ses deux parents. Cela permettra non seulement aux beaux-parents de chaque côté de ne pas avoir à faire la course à l'échalote pour être le premier à faire la démarche, puisqu'actuellement un seul beau-parent peut adopter l'enfant, mais cela permettra également aux coparents de la coparentalité, permettant ainsi à un enfant d'avoir une filiation conforme à son environnement familial lorsqu'il a été conçu dans un projet de coparentalité à quatre parents. Enfin, le rapport propose, en cas d'adoption simple par le beau-parent ou le coparent, une fiscalité des transmissions à titre gratuit. En ce qui concerne l'AMP, le rapport préconise l'ouverture de l'accès à l'AMP aux couples de femmes dans les mêmes conditions que pour les couples de sexes différents, être en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. En cas de recours à l'AMP, la filiation est établie envers les deux mères sans distinction de celle qui porte l'enfant et de l'autre au moment du consentement. Cette disposition évite à la mère qui n'a pas porté l'enfant d'avoir à adopter son propre enfant. Les dispositions concernant les tiers. Les tiers, c'est-à-dire les personnes qui élèvent les enfants sans avoir participé au projet parental. Pour les tiers, le rapport préconise un éventail de propositions allant du mandat d'éducation et d'un certificat de recomposition familiale à l'adoption, en passant par une facilitation du partage de l'autorité parentale. En cas d'accord des parents, il suffirait de faire homologuer une convention devant le juge aux affaires familiales. En outre, le rapport prévoit de faciliter le maintien des liens avec ces personnes en cas de décès ou de séparation. Il propose de favoriser la transmission du patrimoine aux enfants du conjoint avec lesquels ont été tissés des liens affectifs étroits. Quelques questions n'ont pas trouvé de réponse, notamment celles soulevées par les situations des enfants privés d'un de leurs parents parce que le couple s'est séparé avant que ce parent obtienne un statut légal. Le groupe n'a pas pu apporter de solution à certaines questions par manque de consensus, mais a préconisé de voir ces sujets approfondis dans un proche avenir. Quelles sont ces questions laissées pour le moment sans solution? L'ouverture de l'AMP aux femmes seules, la possibilité de consentir à l'AMP accompagnée d'un donneur connu qui s'engagerait à donner sans être parent lui-même, la possibilité de déclarer une coparentalité dès la naissance ou avant, c'est-à-dire d'être plus de deux parents dès la naissance, sans passer par l'adoption. Enfin, tout ce qui concerne un encadrement légal de la gestation pour autrui. Pour conclure, je dirais que si les propositions de ce rapport étaient adoptées, elles répondraient à une grande partie des attentes des familles homoparentales, notamment concernant l'adoption, l'AMP et la coparentalité. Merci.
Merci Martine et merci d'avoir dit que, voilà, quelles que soient les qualités de notre rapport, il ne prétend pas être parfait. Nous avons quelquefois reconnu qu'il y avait des questions, soit qui n'étaient pas assez élaborées dans le débat public, soit sur lesquelles nous n'arrivions pas à un consensus. Au lieu de les masquer, ce qu'on fait quelquefois quand on n'a pas de solution, on le cache. Nous, au contraire, on a plusieurs fois listé à la fin d'un chapitre les points qui restaient à traiter et sur lesquels nous reconnaissions que nous n'avions pas apporté de réponse. Et donc, dans la discussion, vous aurez l'occasion quelquefois peut-être aussi d'y revenir. Alors voilà, on a brossé l'essentiel des propositions du premier volume. Dans le deuxième volume, donc, on traite de l'accès aux origines et de la place familiale des beaux-parents. Donc je te donne la parole, Agnès, pour nous parler de ce que nous proposons, nos propositions phares sur l'accès aux origines.
Merci. Je voudrais tout d'abord dire à quel point je pense que ce rapport est attendu par un grand nombre d'associations qui, depuis des dizaines d'années, se bat pour l'accès des adoptés à leurs origines et des nouvelles associations qui se battent pour l'accès des personnes nées avec procréation médicalement assistée à leurs origines. Ce débat a très souvent été biaisé dans le débat public par une volonté consciente des opposants à toute levée de l'anonymat, en particulier pour les procréations médicalement assistées, en tentant de faire croire que l'accès aux origines, c'était la même chose que la filiation. Je pense que c'est là-dessus que je voudrais intervenir pendant les quelques minutes que j'ai, essayer de vous montrer, en ce qui concerne la procréation médicalement assistée d'une part, puis en ce qui concerne les adoptés et l'accouchement sous X d'autre part, pourquoi et en quoi consiste le malentendu. En fait, il n'existe qu'une revendication dans notre société, c'est qu'une loi, par définition non rétroactive, permette que les personnes nées de dons puissent, à leur majorité, si elles le souhaitent, et seulement si elles le souhaitent, accéder à l'identité de leur donneur. Cette demande relève bien sûr et sans discussion possible de l'accès aux origines personnelles, et pourtant elle a été interprétée à l'occasion de la rénovation des lois de bioéthique, comme l'année dernière, il y a 2 ans, comme un problème de filiation, au point que l'argument principal pour refuser toute évolution du droit a été le refus de, je cite, d'une biologisation, voire d'une génétisation de la filiation, qui mettrait en danger aussi bien les parents que les donneurs. Or, non seulement la revendication d'accès aux origines personnelles n'a rien à voir avec une supposée demande d'établir un lien de filiation, mais elle lui est même contradictoire. Je reprends là les termes mêmes du rapport. Sur quel présupposé repose l'organisation de la PMA, procréation médicalement assistée, aujourd'hui ? Elle repose sur le présupposé, le premier, les intérêts du donneur et ceux du parent seraient spontanément divergents, puisque l'un incarne le parent biologique, l'autre le parent social, deux figures radicalement incompatibles entre lesquelles il faut nécessairement choisir. Le deuxième présupposé serait que grâce à l'anonymat, cette menace serait conjurée, puisque le parent biologique disparaît, laissant la place au seul parent social, seul vrai parent, qui devient le véritable procréateur. Troisième présupposé, les intérêts des parents et des donneurs deviennent convergents, tous bénéficient de l'anonymat définitif des dons. Et enfin, le quatrième présupposé, c'est que les jeunes trentenaires qui sont nés de cette manière et qui revendiquent la levée de l'anonymat menacent les intérêts convergents des parents et des donneurs, que leurs revendications témoignent donc d'un problème psychologique, soit avec leurs parents, soit avec leur filiation. Car s'ils assumaient d'être nés de dons, ils valoriseraient leur père social et n'auraient pas besoin de rechercher un père biologique. Donc, je me souviens de débats avec des psychologues des SECOS qui expliquaient effectivement qu'il fallait expliquer aux enfants et aux futurs pères et qui le diraient à leurs enfants qu'il ne s'agissait que d'un matériau génétique, d'une paillette, et que donc le seul père à valoriser, c'était le père qui décide d'avoir un enfant. En se montrant incapable comme ça de distinguer la filiation et les origines, une telle représentation démontre surtout que dans le modèle qu'elle défend, il n'y a aucune place pour la coexistence des parents et des donneurs. L'hypothèse est toujours celle de l'alternative, de l'exclusivité et de la rivalité. Or, c'est justement dans le passage de la logique traditionnelle du « ou », père ou donneur, à une nouvelle logique du « et », parent et donneur, que s'inscrivent les jeunes générations qui revendiquent l'accès à leurs origines. En soutenant qu'à côté de la filiation, sans concurrence avec elle, ni menace pour quiconque, il y a place pour autre chose, il refuse d'endosser la mythologie d'une pseudo-filiation charnelle et de se voir ainsi privé d'une partie de leur histoire et de leur identité. Donc, quelles sont nos propositions très concrètes ? Premièrement, maintenir la règle d'anonymisation des dons de gamètes et d'embryons. Effectivement, dans les débats français, la formule courante « levée de l'anonymat » entretient la confusion entre deux questions distinctes. L'anonymisation des donneurs et l'accès aux origines des personnes nées de dons. Or,
Les pays qui ont assuré l'accès aux origines attestent qu'il est parfaitement possible de maintenir ab initio un principe d'anonymisation des donneurs, en particulier pour lutter contre toute tentative de marchandisation ou éviter tout eugénisme, tout en admettant in fine, une fois l'enfant devenu majeur, qu'il puisse avoir accès à ses origines personnelles. Ce sont deux questions différentes. L'anonymisation concerne les relations donneur-receveur, alors que l'accès aux origines concerne les relations donneur et personne née des dons. Le tiers, troisième, l'enfant. Et donc, c'est bien, en résumé, si vous voulez, nos propositions sont donc de maintenir la règle d'anonymisation des dons de gamètes et d'embryons, de garantir au donneur son anonymat jusqu'à la majorité de l'enfant né du don, seul autorisé à en demander la levée, et enfin, ouvrir un débat, parce que là aussi, nous ne sommes pas mis d'accord tout à fait, sur la possibilité d'autoriser également des dons dits dirigés. Martine en parlait à l'instant, c'est-à-dire, au fond, que signifie, enfin, ça se pratique déjà, hein, beaucoup, c'est-à-dire on choisit son donneur et on explique que donc, la personne ne veut pas être le parent légal, mais elle veut exister peut-être dans la vie de l'enfant, comme peut exister un beau-parent, comme un adulte de plus, un parrain, quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas proposé de choses très, très claires sur, en tout cas, de mener une réflexion plus approfondie sur cette question. Donc, concrètement, on propose d'inciter le donneur de gamètes ou d'embryons à laisser au moment du don aussi des renseignements non identifiants. Vous savez à quel point c'est important du point de vue de la santé des enfants et des questions que peuvent se poser les enfants sur des éventuelles maladies génétiques, etc. Donc, prévoir le recueil de ces renseignements non identifiants sous une forme standardisée pour favoriser l'égalité d'information entre les personnes nées de dons et permettre la transmission de ces renseignements non identifiants à l'enfant issu du don dès sa majorité, accompagné de ses représentants légaux. Troisième point que nous proposons, c'est permettre la délivrance de l'identité du donneur à la personne majeure, donc née du don, qui en fait la demande, donc au moins 18 ans après le don. Et pour cela, organiser aussi quatrièmement, soumettre toute rencontre à l'accord du donneur. Il est important, en effet, de ne pas confondre le droit d'accès aux origines personnelles avec un droit de contacter le donneur, a fortiori de lui imposer une rencontre qu'il ne souhaiterait pas. Le droit au respect de la vie privée doit protéger le donneur de toute irruption intempestive de la personne née de son don, qui aurait lieu contre son gré. C'est pourquoi il importe d'organiser un accompagnement de l'accès aux origines personnelles. Et donc, on précise ça de manière en précisant les institutions qui nous semblent devoir s'engager dans ces préconisations. D'une part, il nous semble qu'il faut maintenir et élargir la compétence des SECOS et autres organismes autorisés pour la conservation du sperme et des embryons pour le recueil et la conservation de l'identité des donneurs. Et d'autre part, renforcer le rôle du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, le CNAOP, étendre ses missions avec deux collèges, un collège dédié aux origines des personnes adoptées ou pupilles de l'État et un collège dédié aux origines des personnes issues d'un don dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Donc, je vais très, très vite, puisqu'il ne reste que quelques minutes. On prévoit aussi pour les dons qui ont été faits antérieurs à la nouvelle loi de prévoir une concertation avec les SECOS et le CNAOP pour que les donneurs qui le veulent puissent indiquer qu'ils acceptent la communication de leur identité à l'enfant issu du don. En ce qui concerne maintenant l'accouchement sous X, très très rapidement, les revendications à l'accès aux origines sont connues et ont toujours été présentées comme se heurtant au droit de la mère, c'est-à-dire qu'on oppose là les droits de l'enfant au droit de la mère, le droit d'accoucher dans le secret. Et ce que nous avons voulu faire, c'est justement la logique de nos propositions, n'est pas de critiquer la délicate recherche d'équilibre qui a été déjà faite dans la loi de 2002 auquel Ségolène Royal a collé son nom, bien sûr, mais de l'améliorer de quatre façons. D'une part, en reconnaissant que l'intérêt de la femme au moment de la naissance et de l'abandon n'est pas forcément l'intérêt de la femme toute sa vie, c'est-à-dire que nous faisons entrer le temps de la vie d'une femme dans nos réflexions. Plus généralement, on ne peut pas présumer qu'une femme en détresse qui a absolument besoin du secret de l'accouchement ait ensuite toujours le souhait que cet événement majeur de sa vie soit aboli et effacé à jamais, au point d'être supposé n'avoir jamais eu lieu. D'ailleurs, les témoignages de femmes concernées qui sont sorties de l'ombre infirment radicalement le présupposé selon lequel elles seraient attachées à l'anonymat définitif, nombre d'entre elles dénonçant l'accouchement sous X comme un dispositif inhumain. Distinguer donc secret de l'accouchement, d'un côté, et possibilité de lever l'anonymisation d'identité de la mère de naissance dans le dossier de l'enfant permettrait de concilier ces deux intérêts de la femme, contrainte d'accoucher secrètement et d'abandonner son enfant. La deuxième logique, c'est en reconnaissant que l'intérêt de l'enfant de pouvoir accéder à ses origines quand il sera devenu adulte n'est pas forcément incompatible avec l'idée qu'il a pu être de son intérêt antérieurement de naître dans des conditions propres à protéger sa vie et sa santé grâce à l'organisation du secret de son accouchement. Là encore, on tient compte du temps. Distinguer anonymat définitif empêchant toute recherche des origines et secret de la naissance permettrait de concilier ces deux intérêts de l'enfant aussi. Troisièmement, en reconnaissant que la loi française de 2002 qui a créé le CNAOP, donc le Conseil national de l'accès aux origines, qui a organisé la possibilité pour l'enfant de connaître l'identité de sa mère de naissance sous le bon vouloir de cette dernière, ça a été un réel progrès, mais ce n'est pas une solution satisfaisante dans la mesure où il est seulement proposé aux mères de laisser leur identité, alors que nous, la proposition que nous faisons, c'est qu'il y ait une obligation de laisser l'identité, tout en préservant le secret de l'accouchement lui-même. Donc nous ne confondons pas, comme le font bien des polémiqueurs, secret de l'accouchement et anonymat des mères. Et c'est cette confusion constante qui est faite dans les débats avec les opposants à toute réforme. Et c'est là-dessus que nous distinguons bien. Et enfin, en reconnaissant que le droit d'accès aux origines d'un enfant dont la mère de naissance a accouché sous le secret implique indirectement aussi les parents adoptifs de celui-ci et que ceux-ci aussi ont des valeurs à promouvoir et des intérêts à défendre, des valeurs concernant la conception contemporaine de l'adoption comme devant respecter l'histoire antérieure de l'enfant. Il y a une logique dans tout notre rapport sur la nécessité absolue de ne pas penser les institutions comme substitutives, mais comme s'intégrant à l'histoire de l'enfant qui doit être reconnue institutionnellement pour qu'elle fasse partie qu'il puisse broder lui-même son identité et construire son identité personnelle à partir des éléments institutionnels qui auront été préservés de sa vie avant son adoption, avant sa conception, etc. Donc il y a une logique, évidemment, dans cette reconnaissance dans tous les domaines de l'accès aux origines personnelles.
Merci beaucoup. Merci. Agnès. Merci d'avoir synthétisé deux chapitres, parce que chaque fois je la pousse et tout ça. Et bien sûr, et du coup, d'avoir insisté surtout sur l'accouchement sous X, qui est la question évidemment la plus complexe, mais vous le verrez dans le rapport, des propositions sont faites pour tous les adoptés, même ceux qui ne sont pas nés sous X, ceux qui sont nés en France, ceux qui sont nés à l'étranger, pour favoriser aussi l'accès aux origines pour tous. Dernier grand chapitre, il a été évoqué déjà plusieurs fois, la place familiale du beau-parent. Et donc, Agnès Martial présente les propositions phares du rapport, dont certaines ont déjà été reprises, nous dit-on, et même savons-nous, par la proposition de loi dont les députés qui l'ont présentée sont là.
Merci. Alors, donc, concernant les beaux-parents et la place familiale des beaux-parents, donc, les propositions concernent le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin de sexe différent ou de même sexe de l'un des parents dans une famille recomposée, donc. Et il s'agissait, on le voit, de cerner les enjeux d'une place qui est à la fois diverse et singulière. Et c'est pourquoi je vais faire quelques remarques préalables pour expliquer pourquoi nous n'avons pas souhaité proposer un statut qui produirait un corps de règles uniforme, univoque et plus ou moins impératif qui s'imposerait à tous de la même manière. Il fallait au contraire tenir compte de la diversité des situations et des attentes. et respecter la place que chacun peut souhaiter jouer dans les familles recomposées. C'est pourquoi nous avons choisi cette notion de place familiale pour le beau-parent, un cadre souple, des responsabilités librement assumées, des dispositions non impératives, réversibles, autant de traits qui, finalement, caractérisent les familles recomposées. Cette place familiale du beau-parent ressortit au registre de la parentalité. Elle ne doit pas menacer ou fragiliser la place des parents de l'enfant. Dans le respect de ce principe de coparentalité, la quête d'un consensus au sein de la famille recomposée reste première dans les propositions que nous avons formulées, et le juge reste in fine le gardien de l'intérêt de l'enfant. Alors, trois grandes rubriques permettent de décliner la place familiale du beau-parent. La première concerne la participation du beau-parent à l'éducation quotidienne du bel enfant, et cette participation peut être reconnue à différents degrés. On évoquera d'abord les actes usuels, c'est-à-dire les actes du quotidien qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant, notamment quant à sa santé, son éducation ou ses droits fondamentaux. Il s'agit ici de conforter la place du beau-parent, tout en sécurisant les interlocuteurs de la famille recomposée, les écoles, les administrations, le milieu médical, etc. Ceci dans la vie de tous les jours. Alors, concernant ces actes, le beau-parent, on le sait, peut déjà recevoir une autorisation ponctuelle du parent en réponse aux nécessités de la vie courante. Et ce fonctionnement peut apparaître satisfaisant pour un grand nombre de familles et il doit pouvoir perdurer en l'état quand cela paraît suffisant. Mais pour les familles qui souhaiteraient que le beau-parent puisse accomplir ses actes de manière plus générale et plus systématique, nous avons proposé de créer un mandat d'éducation quotidienne conditionné à la volonté du beau-parent, bien sûr, et qui lui serait donné par son conjoint, donc le parent de l'enfant. Alors, afin de respecter la diversité des situations et des relations qui sont nouées avec un beau-parent au sein d'une même fratrie recomposée, chaque mandat ne pourrait concerner qu'un seul enfant. Ensuite, l'accord de l'enfant à l'établissement de ce mandat ne serait pas un préalable nécessaire, mais cet enfant pourrait, comme le prévoit la loi de manière générale, être entendu par le juge en cas de litige lié à l'existence ou à l'exécution du mandat. Concernant l'autre parent de l'enfant, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, les décisions et les actes qui relèvent de la vie quotidienne sont allégés en droit par une présomption d'accord. Chaque parent est donc présumé agir avec l'accord de l'autre. C'est pourquoi l'accord explicite de l'autre parent ne serait pas requis comme préalable à la création du mandat. Mais bien sûr, ce parent pourrait faire tomber la présomption d'accord en faisant part de son opposition, au cas où il serait opposé donc à ce mandat, et il pourrait évidemment saisir le juge en cas de conflit. Par ailleurs, ce mandat pourrait être révoqué à tout moment par chacune des parties. La deuxième proposition relative à la vie quotidienne dans les familles recomposées est de créer un certificat de recomposition familiale. Alors, ce certificat serait bien sûr, là encore, facultatif. Il est simplement destiné à faciliter la vie des familles recomposées. Il serait délivré en mairie, un petit peu comme autrefois le certificat de concubinage. Et il ferait état de la cohabitation du parent et du beau-parent, ainsi que des différents mandats d'éducation passés au sein de la famille. Ce certificat pourrait être présenté au tiers pour attester des responsabilités assumées par un beau-parent. Mais au-delà de la vie quotidienne, il a aussi son intérêt, parce qu'on va en parler ensuite, il pourrait être utile comme preuve d'une vie commune et de la durée de cette vie commune pour justifier, par exemple, au moment d'un décès ou d'une séparation, le maintien d'un lien entre le beau-parent ou son bel enfant, pour illustrer une volonté de transmission successorale entre le beau-parent et le bel enfant, ou bien encore pour faire valoir les droits d'un beau-parent à une pension de retraite. Bon, on évoquera cela ensuite. Alors, un second degré de la participation du beau-parent à l'éducation de son bel enfant relève de l'autorité parentale. Il s'agit ici de donner au beau-parent, qui le souhaite toujours, la possibilité de prendre en charge l'enfant, au nom de l'intérêt de l'enfant en question, dans le respect des responsabilités qui appartiennent aux parents et toujours sous le contrôle du juge. Ici, la participation du beau-parent à l'éducation de l'enfant n'est plus simplement quotidienne et liée aux actes usuels. Elle est conçue comme un soutien à la parentalité. Et en fait, elle intervient le plus souvent dans des circonstances particulières dans lesquelles l'exercice de l'autorité parentale par les seuls parents de l'enfant se trouve fragilisé. Par exemple, la maladie, ou bien l'éloignement, ou bien le désintéressement de l'un des deux parents de l'enfant. Dans ces cas-là, ce soutien à la parentalité peut se traduire par un partage ou par un transfert de l'autorité parentale. Alors là, on n'a rien inventé, les textes prévoient déjà ces possibilités, mais ils sont encore parfois ambigus ou incohérents, et nous proposons simplement de les clarifier en distinguant mieux, d'une part, la délégation partage, qui permettrait aux beaux-parents de partager donc avec les parents en totalité ou en partie l'exercice de l'autorité parentale, et d'autre part, la délégation transfert, par laquelle l'un ou les deux parents transfèrent tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale aux beaux-parents, qui donc en a l'exercice à la place du ou des délégants. Ici, le soutien à la parentalité prend la forme d'une substitution temporaire. Une simple remarque, évidemment, on ne peut pas développer tout dans le détail toutes ces questions, qu'elle soit le résultat d'une convention homologuée lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale, ou bien d'une décision judiciaire qui intervient en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ou en l'absence d'accord des parties, on doit souligner, pour ces dispositifs, l'existence toujours de situations particulières, voire exceptionnelles, le pouvoir souverain d'appréciation du juge au regard du seul intérêt de l'enfant. Alors, le deuxième volet de la proposition concerne les relations entre beaux-parents et bel-enfant en cas de décès du parent ou de séparation du couple. En cas de décès, le juge peut d'ores et déjà confier l'enfant à un tiers, dans des circonstances exceptionnelles, si l'intérêt de l'enfant l'exige, et ce tiers est choisi, pour le moment, dans les textes, choisi de préférence dans la parenté. Il est proposé ici de supprimer cette dernière formule, car elle fait passer les beaux-parents au second plan, notamment en l'absence de mariage. Donc, il nous a paru nécessaire de la supprimer. De plus, en cas de décès de l'un des parents, le beau-parent devrait pouvoir saisir le juge pour demander lui-même à ce que l'enfant lui soit confié. Enfin, l'un des parents, ou les deux, devrait aussi pouvoir anticiper un tel événement, s'il le souhaite, en prévoyant que l'enfant sera confié à un tiers, ici le beau-parent, en cas de décès de l'un d'eux. Dans ces situations, il faudrait par ailleurs élargir les pouvoirs du tiers auquel l'enfant est confié, au-delà de la mention actuelle des actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, en désignant plutôt l'ensemble de ces actes usuels et en permettant au juge de confier éventuellement au tiers d'autres pouvoirs concernant, par exemple, les décisions en matière de santé et d'éducation. Enfin, en cas de décès du parent, les dispositions relatives à la délégation partage ou à la délégation transfert de l'autorité parentale peuvent également être utilisées. Et cette délégation pourrait faire l'objet d'une anticipation du vivant des parents. Après la séparation du parent et du beau-parent, la loi prévoit déjà la possibilité de maintenir des relations personnelles avec l'enfant. Mais le contenu de ces relations n'est pas clairement défini. Il faudrait ici préciser qu'elles peuvent se traduire, j'ai fini, par un droit de correspondance, de visite et d'hébergement. Donc très vite, sur le troisième et le dernier volet des propositions relatives à la place familiale du beau-parent, concernant donc l'argent et le patrimoine, il n'y a pas d'obligation alimentaire entre beaux-parents et beaux-enfants. Et il n'est pas question d'en créer une aujourd'hui dans le cadre des dispositions que nous proposons. En revanche, dans le domaine des transmissions successorales, on doit noter que la fiscalité des transmissions entre beaux-parents et beaux-enfants demeure toujours aujourd'hui considérée comme une transmission entre tiers et soumise à des droits de mutation très importants, de 60%, ce qui conduit à d'importants détournements de l'adoption simple et donc aux proportions d'adoption simple qu'on a évoquées tout à l'heure. Pour éviter ces détournements et pour consacrer la place du beau-parent, il conviendrait de soumettre ces transmissions entre beaux-parents et beaux-enfants à la même fiscalité que les transmissions entre parents et enfants, en prévoyant le respect de certaines conditions, comme le fait que le beau-parent ait prodigué des soins au bel enfant, ou bien que ce dernier ait pris en charge son beau-parent plus tard, à chaque fois sur une certaine durée. Concernant les droits sociaux, qui ont déjà fait l'objet de nombreuses dispositions, réflexions et propositions, le rapport soulève la question de la prise en compte des familles recomposées dans la majoration des pensions de retraite pour les beaux-parents ayant assuré la prise en charge effective d'au moins 3 enfants. Juste quelques mots pour conclure. Rappeler simplement que cette place familiale a donc a pour fondement des responsabilités librement et volontairement assumées, que les mesures proposées ne construisent pas de situation figée et définitive, notamment en matière d'autorité parentale, qu'elles sont toujours modifiables et révisables. Et enfin, que cette place faite aux beaux-parents n'empêche nullement, si jamais la situation s'y prête, la création de liens de filiation par adoption, mais on passe alors de la place au statut, de la parentalité à la parenté, et on se trouve alors, ce qui correspond à des situations familiales tout à fait particulières. Merci.